Qu'est-ce que c'est que la vérité si la vérité est celle d'un Dieu vivant ?
Rappelle-toi les jours d'autrefois. Considère les années, de génération en génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes anciens, ils te le diront.
Et en même temps, il dit quelque chose du « c'est bon la vie, c'est beau ».
Bonjour et bienvenue à toutes les auditrices et tous les auditeurs pour ce premier rendez-vous de l'émission « Au commencement était la fouille ». Je me présente, je m'appelle Iliane, je suis un étudiant en licence 3 d'archéologie à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Et ce que je vous propose dans cette émission, c'est que tous ensemble, nous confrontions Bible et archéologie. Écrit canonique ou apocryphe, tout doit y passer. Pour commencer, posons les bases. Tout d'abord, qu'est-ce que l'archéologie ? Selon l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'archéologie étudie les civilisations à partir de leur culture matérielle. Et selon l'archéologue danois Christian Christiansen, l'archéologie porte un double objectif qu'il nous faut absolument retenir. D'abord, la reconstitution des mondes anciens, afin de mieux les comprendre et de les appréhender, et ce, à différentes échelles spatio-temporelles. Et la préservation des archives archéologiques dans le paysage et dans les musées, pour, je cite, « une étude et une utilisation future ». Et maintenant, la Bible, Kézako. Rappelons que ce que nous appelons Bible est un livre regroupant l'ensemble des textes canoniques du Tanakh, ou Bible hébraïque, ainsi que les textes dits du Nouveau Testament. Je précise que le Tanakh comprend bien trois grandes parties. La Torah, également appelée Pentateuch, les Névim, c'est-à-dire les livres des prophètes, et enfin les Ketuvim, que l'on traduit souvent en français par les autres écrits. Le Nouveau Testament, lui, comprend quatre évangiles canoniques relatifs au ministère de Jésus-Christ. Ce sont les fameux évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il y a également les Actes des Apôtres, les 13 épîtres de Paul, l'Épître aux Hébreux, et encore d'autres épîtres dites catholiques au sens d'universel, attribuées à différents disciples. Enfin, le Nouveau Testament termine par l'Apocalypse. De même, et je m'excuse pour cette entrée en matière pleine de définitions, je sais que tout cela peut être lourd et fatigant à écouter, mais je pense qu'il est important d'éclaircir ces sujets et d'élucider le caractère de ce que nous allons étudier. Donc pour finir, il est nécessaire de revenir sur la signification des termes canonique et apocryphe. Canonique, du grec canon, qui signifie règle ou norme, et qui concerne les textes officiellement reconnus dans le canon biblique par une autorité religieuse. Par exemple, l'institution de l'Église catholique ne reconnaissant l'authenticité que de quatre évangiles. Mais bien entendu, des évangiles, et même tout autre écrit, il en existe en quantité abondante. C'est le cas de l'évangile de Thomas, ou encore du livre d'Enoch. Ces écrits non reconnus sont appelés apocryphes, du grec apokryphos, qui signifie caché ou secret. Vous l'aurez compris, mon objectif dans cette émission est de bannir le caché, le secret, de ne pas laisser de côté les écrits oubliés ou tout ce que l'archéologie et la recherche en histoire peuvent apporter à nos lectures de notre bonne vieille Bible. Plus que tout, je tiens à mettre en avant un grand souci que Bible et archéologie partagent tout à fait, le souci de l'interprétation. Comment interpréter un texte ou une découverte archéologique ? Comment interpréter une parole ou un fragment de céramique ? Quel regard portons-nous, nous qui lisons des mots et découvrons des vestiges dont un fossé culturel et temporel nous sépare de leur production ? Pour ce premier épisode, quoi de mieux que de plonger nos mémoires au cœur des livres des rois et des chroniques ? Dans l'Ancien Testament, les deux livres des rois font suite aux deux livres de Samuel. Il rapporte l'histoire des rois de Juda et d'Israël, de la mort de David, vers 970 avant Jésus-Christ, à la ruine de Jérusalem, cette fois-ci vers moins 586. Tandis que les chroniques, elles, propose une histoire d'Israël depuis la création jusqu'au terme de l'exil à Babylone. Ainsi, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire d'un personnage qui m'intéresse beaucoup et qui est mentionné au sein du deuxième livre des rois et du deuxième livre des chroniques. C'est le plus jeune roi de Juda, celui qui pleure devant le livre de la loi. J'ai nommé Josias, célèbre pour la réforme religieuse qui porte son nom, également appelée réforme deutéronomique.
Mon roi, le grand prêtre, a découvert un livre ancien caché dans le temple et me l'a remis à moi. C'est le livre de la loi qui fut donné par Moïse.
Depuis de nombreux jours, tu me parles d'argent et du travail des hommes. Mais aujourd'hui... Seigneur Dieu a entendu mes prières.
Eh oui, Josias entreprend l'abolition des cultes étrangers que le royaume de Juda s'est vu imposer en tant que vassal de l'empire assyrien depuis le règne d'Achaz. Pour vous situer, c'est environ entre -736 et -716. Mais il entreprend aussi l'abolition de toutes les traditions polythéistes qui y étaient conservées. Et puis, alors même qu'en pleine politique de consolidation religieuse, Josias prend la décision de stopper l'avancée du pharaon égyptien Nekao II, alors en route pour soutenir les Assyriens contre Babylone. Cette calamiteuse rencontre conduit à la mort du roi de Juda sur le site même de Megiddo. Et c'est ici précisément, chères auditrices et auditeurs, que l'archéologie rentre en jeu. Megiddo, c'est un site archéologique implanté au cœur de la vallée de Jézréel, un site qui fut fouillé à 3 reprises. Les premières fouilles furent effectuées entre 1903 et 1905 par Gottlieb Schumacher pour la société allemande Oriental Research. Puis, en 1925, une nouvelle campagne démarre, réalisée par l'Institut Oriental de l'Université de Chicago et financée, non pas par n'importe qui, mais par John D. Rockefeller Jr. Elle a duré jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ces fouilles, 20 niveaux d'habitation et un grand nombre de vestiges ont été découverts. Les vestiges trouvés sont conservés au musée Rockefeller à Jérusalem et à l'Institut Oriental de l'Université de Chicago. Depuis 1994, Megiddo fait l'objet de campagnes tous les 2 ans. Menée par The Megiddo Expedition de l'Université de Tel Aviv, réalisée par les Israéliens Finkelstein et David Ussishkin. Megiddo, qui dans l'Antiquité fut une importante cité-État, est située à environ 90 km au nord de Jérusalem et à 31 km au sud-ouest de la ville actuelle de Haïfa. Elle fut construite sur un tertre dont le nom actuel est Tel El Mouteselim en arabe, ou Tel Megiddo en hébreu, et qui surplombe la plaine de 21 mètres suite à l'empilement de couches archéologiques. Le monticule du Tel comporte en tout 26 couches regroupant les ruines de villes anciennes sur ce lieu. Je tiens tout de même à dire que selon l'UNESCO, Megiddo est le site comptant le plus de monuments préservés de la période biblique. Megiddo est un carrefour commercial et militaire stratégique qui commandait l'un des principaux axes reliant l'Égypte à la Mésopotamie. Cette route, c'est la Via Maris, un chemin essentiel aux échanges commerciaux, au déplacement des armées, et donc à un contrôle politique sur le Levant. En clair, posséder Megiddo, c'est contrôler l'accès à la richesse de la Syrie et des territoires au-delà. Bon, avec tout ce bagage, cette ville devient au fil des siècles le lieu de nombreuses batailles, impliquant Égyptiens, Israélites, Canaanites, Assyriens et même Perses. Pour ce qui est de l'historique de la ville, Megiddo est conquise dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ par les pharaons égyptiens. Elle est en particulier mentionnée dans les écrits des grandes campagnes de Thoutmôsis III. Puis, elle devient un centre administratif régional après que les Assyriens s'en soient emparés au 8e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, lorsqu'en 609 avant, Nekao II marche vers le nord pour soutenir les derniers bastions assyriens contre Babylone, le passage par Megiddo s'impose naturellement. Maintenant, dans la Bible. Eh bien, dans la Bible, ce haut lieu est connu à la fois pour deux victoires importantes et pour deux grandes tragédies. D'abord, c'est la victoire de Déborah et Barak sur les Cananéens dans le livre des Juges. Puis, la victoire de Gédéon sur les Madianites, à nouveau dans le livre des Juges. Mais c'est également le lieu de la mort tragique de Saoul et de ses fils, dans le livre de Samuel. Ou encore, la mort de notre cher Josias, dans le livre des Rois et le livre des Chroniques. Pour être plus exact, les sources bibliques présentent deux versions distinctes de la mort de Josias. La première, celle du deuxième livre des Rois, dans laquelle il est tué par Nekao, sans précision d'affrontement.
De son temps, Pharaon Nekao, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre. Et Pharaon le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre.
La seconde version, c'est celle du deuxième livre des Chroniques, et elle décrit un véritable combat.
Après tous ces événements, lorsque Josias eut réparé la maison du Seigneur, Nekao, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish, sur l'Euphrate. Et Josias marcha à sa rencontre. Nekao lui envoya des messages pour lui dire « Que me veux-tu, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je marche aujourd'hui, mais contre une autre maison royale avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Laisse donc agir, Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne changea pas d'avis. Bien plus, il se déguisa pour l'attaquer. Il n'écouta pas les paroles de Nekao, qui venait de la bouche de Dieu. Il vint livrer bataille dans la plaine de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, qui dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le sortirent de son char, le placèrent sur un autre de ses chars et l'emmenèrent à Jérusalem, où il mourut. On l'ensevelit dans les tombeaux de ses pères. Tout Juda et Jérusalem prièrent le deuil de Josias.
Mais les champs ne ramèneront pas Josias, et c'est Megiddo qui l'a emporté. Ah, Megiddo, vallée du bien, vallée du mal.
أسرار مخباي 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 أنوار القمر رجعت الحلواي وبقلبها الحكاي ونامت عالتكاي عم تحلم بالقمر نامي يا حلواي نامي بكرة جاي 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 لعن القمر Thank you.
cette pause musicale, je vous propose que nous nous penchions sur de nouvelles études menées par des archéologues de l'université de Haïfa et de l'université Ben Gourion, et qui mettent à jour de nouvelles preuves d'une présence militaire égyptienne et grecque à Megiddo, pile au 7e siècle avant Jésus-Christ. Leurs récents travaux ont été publiés en janvier 2025 dans le Scandinavian Journal of the Old Testament. Ces fouilles, menées sur une zone appelée Area X, révèlent un bâtiment de grande taille et un ensemble de céramiques grecques et égyptiennes jusqu'alors inconnues. Parmi ces objets, il nous faut noter une grande prédominance de céramiques provenant de la vallée du Nil, pour un usage militaire. Ces objets témoignent sans doute d'une occupation militaire égyptienne au moment du conflit avec le roi Josias. Aussi, comme je le mentionnais un peu plus tôt, des fragments de vaisselle grecque ont également été retrouvés à Megiddo, ce qui renforce l'idée d'une armée composite sur le site. Tous ces éléments matériels concordent avec la période supposée de l'affrontement, c'est-à-dire autour de 609 avant Jésus-Christ, je le rappelle. Les fragments de céramique grecque ont été attribués stylistiquement et matériellement à la production grecque de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui témoignerait donc de forces présentes lors de l'affrontement. Ceci nous amène à penser que l'armée égyptienne n'agissait pas seule. Et d'ailleurs, selon les chercheurs Finkelstein et Kleiman, cette présence des Grecs correspond aux pratiques militaires de l'époque, l'Égypte faisant régulièrement appel à des mercenaires issus du monde égéen pour renforcer ses armées lorsqu'elle était en campagne. Les sources textuelles grecques et assyriennes de cette époque confirment cet emploi de soldats grecs par l'Égypte. Ce recrutement de troupes correspond à une stratégie régionale de maintien d'influence face aux Babyloniens. Bien entendu, si ces découvertes renforcent l'idée d'une forte présence militaire égyptienne à Megiddo au moment de la mort de Josias, elles ne nous permettent pas de connaître définitivement les circonstances exactes de son trépas. Car n'oublions pas ce que nous avons vu nous-mêmes il y a quelques minutes. Les sources bibliques divergent sur la question de la mort du souverain. Selon le chercheur Kleiman de l'université Ben-Gourion, la version des rois étant plus ancienne, elle serait donc plus proche des faits et devrait ainsi être considérée comme plus historiquement fiable. L'historien Reinhard Kratz de l'université de Göttingen est du même avis. Il estime que cette transformation en bataille épique dans les chroniques pourrait répondre à des enjeux théologiques postérieurs. Jacob Wright, professeur à Emory University, va même plus loin. Il envisage que Josias ait été exécuté sur ordre de Nekao plutôt que tué dans une bataille ouverte. Il serait devenu la figure du vassal indocile à l'Égypte. Comme quoi, confronter texte et vestiges n'est pas une mince affaire. Quoi qu'il en soit, la mort de Josias a de lourdes conséquences sur son royaume. Sa disparition entraîne la domination babylonienne et la destruction du premier temple en moins 586. la suite théologique des événements nous emporte directement dans la tradition chrétienne, au sein du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, d'une voix ferme, d'une voix forte, qui disait « C'en est fait ».
Mais Armageddon, est-ce que ça ne dirait pas quelque chose ? Et si, de l'hébreu Armageddon, la montagne de Megiddo. Il s'agit ici de la fameuse bataille d'Armageddon, battle finale entre Dieu et les gouvernements humains de l'armée de l'Antéchrist. Donc, quand en Apocalypse 16:16, on nous dit « Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon », on nous parle du rassemblement des rois restés fidèles à l'Antéchrist pour l'assaut final contre Israël sur la montagne de Megiddo. Décidément, il s'en passe des choses là-bas. En vérité, les données archéologiques que nous venons d'étudier sur la rencontre de Josias et de Nécao II à Megiddo ne font qu'alimenter les interprétations théologiques liées à la bataille d'Armageddon. Certains chercheurs ont pour hypothèse que le personnage biblique de Gog pourrait être inspiré de Gige, roi de Lydie, au 7e siècle avant Jésus-Christ. On le connaît pour avoir envoyé combattre des mercenaires aux côtés des Égyptiens. Cette association nourrit l'idée que les forces étrangères impliquées à Megiddo aient pu petit à petit entretenir dans la tradition biblique l'image d'un ennemi eschatologique. Ainsi, Megiddo, Armageddon, a été progressivement associé dans les textes apocalyptiques postérieurs à la scène d'un affrontement final entre les forces du bien et celles du mal. Pour conclure, si cette découverte et ces écrits nous apprennent bien une chose, c'est qu'en archéologie, tout comme avec la Bible, rien n'est sûr. On ne saura probablement jamais comment Josias est mort, s'il est certain qu'il soit passé à Megiddo, si Égyptiens et Grecs y ont combattu contre les Juifs. Et même si de nombreux croyants voudront me taper sur les doigts pour ce que je viens de dire, qu'ils sachent, la Bible est pour moi le plus bel instrument du doute. Je finis avec l'agenda de l'émission et vous annonce l'organisation par l'ANR Gepreco, c'est-à-dire de Gallic Etruscan Phocean Rites of Commensality, d'un séminaire et atelier du 3 au 5 octobre prochain au musée Henri Prades, au site archéologique de Latara, sur le thème de l'archéologie expérimentale des produits alimentaires des mondes celtes, grecs et romains. Au programme, séminaire de présentation et d'analyse gastronomique des mondes méditerranéens antiques et atelier de reconstitution culinaire. Je vous communique également la conception d'une conférence sur la thématique « Les gravures rupestres de Valcamonica, une approche structurelle des représentations de construction en bois de l'âge du fer ». Une conférence de Pierre Péfaud et Frédéric Epo qui se tiendra à l'Université de Montpellier sur le site Saint-Charles, dans la salle des colloques 1, le 16 octobre 2025. Je vous invite également à aller écouter l'émission de Yolande Gounel, que vous devez sans doute déjà connaître. Un protestant peut en cacher un autre. Dans le dernier épisode de l'émission, Yolande me fait l'honneur de m'interviewer afin que je me présente plus en détail et que je puisse parler de mon parcours de croyant. Enfin, une immense gratitude envers Babette Soulier-Laporte qui m'a permis de créer cette petite émission qui, j'espère, vous plaira. Je ne peux que vous inciter à aller écouter attentivement l'émission de Babette, La Bible, parfum de scandale, une émission qui, personnellement, me fait énormément de bien. Et pour finir, je termine sur une lecture de la lettre aux Romains, chapitre 15, verset 4. « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Merci pour votre écoute, auditrices et auditeurs, et je vous dis au mois prochain.